Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant. Le culte qui va être diffusé a été préparé et sera animé par Bernard Cavalier, prédicateur de l'Église protestante unie de France, avec la participation de Mireille Soulier. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Par-delà les kilomètres qui nous séparent, par-delà plaines, collines, montagnes et vallates, nous sommes tous ensemble réunis par la pensée pour répondre à l'invitation que dimanche après dimanche, notre Seigneur nous adresse. Tous, nous sommes les bienvenus pour ce temps de culte.
Avec un texte du XVIIe siècle, louons notre Seigneur. J'adore l'invisible et immortel essence, qui, de ses propres mains, a bâti l'univers. Je bénis l'Éternel, dont mille effets divers font éclater la gloire et la magnificence. À tout ce qui respire, il donna la naissance. Il suspendit la terre, il étendit les airs. Il fit les jours, les nuits, les étés, les hivers. Et du lambris des cieux forma le tout immense. Mais de quelle matière et par quels instruments composa-t-il alors ces riches bâtiments qui nous font admirer sa puissance suprême? De rien, tu fis ce tout, par ta divine voix, tout-puissant Créateur. Tu trouvas en toi-même la substance, la forme et l'ordre que j'y vois. C'est Lorrain Drelincourt qui nous a invités à la louange en 1677.
Hear my prayer.
nous nous associons à la prière de repentance. Seigneur notre Dieu, au moment où ici-bas la force prend le pas sur le droit, l'appât du gain prime sur la raison, et où partout dans le monde, des hommes se dressent les uns contre les autres. Au moment où dans le pays même où vécut notre Seigneur Jésus, des hommes se battent, se haïssent, se massacrent, souvent en invoquant ton nom, nous ne pouvons que ressentir l'ampleur de notre faute. Incapables de trouver les mots qui procurent la paix, incapables par nous-mêmes de prendre suffisamment soin de cette terre si belle que tu nous as confiée, nous t'appelons à l'aide. Pour tout cela, pardonne-nous, Seigneur. Mais surtout, viens par ton Saint-Esprit nous éclairer, afin que nous sachions quitter les mauvaises voies où nous nous sommes engagés pour reprendre celles où, comme sans se lasser, l'oiseau appelle l'oiseau tombé du nid. Toi aussi, tu nous appelles. Amen.
Frères et sœurs, toute la Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'amour, qui fait tout le chemin pour venir jusqu'à nous, pour nous prendre par la main et pour nous remettre debout. C'est lui qui nous donne la force, la volonté, mais aussi la confiance et l'amour dont nous avons besoin pour avancer. Amen.
Ainsi restaurés, nous pouvons suivre la loi de Dieu. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. À ceci, désormais, nous connaissons l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons nous donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre avoir de l'amour pour Dieu dans son cœur? Mes amis, n'aimons pas en discours, en belles paroles, mais en actes et en vérité. Amen.
Avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à un instant de prière. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous dans la vérité. Esprit de sainteté, pénètre nos pensées et nos cœurs. Rends-nous obéissants à ta volonté. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne peut éteindre. Amen.
Nous lirons d'abord dans Ézéchiel, chapitre 17, versets 22 à 24. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Moi, je prends à la pointe du ciel du cèdre altier et je plante. J'arrache à la cime de ses branches un rameau tendre. Je le plante moi-même sur une montagne haute, surélevée. Je le plante sur une montagne élevée d'Israël. Il portera des rameaux, produira du fruit, deviendra un cèdre magnifique. Toutes sortes d'oiseaux y demeureront. Ils demeureront à l'ombre de ses branches. Alors, tous les arbres des champs connaîtront que je suis le Seigneur, qui fait ramper l'arbre élevé, élève l'arbre qui rampe, dessèche l'arbre vert et fait fleurir l'arbre sec. Moi, le Seigneur, je parle et j'accomplis. Dans l'Épître aux Corinthiens, au deuxième Épître, chapitre 5, versets 6 à 10. Ainsi donc, nous sommes toujours pleins de confiance, tout en sachant que, tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes hors de notre demeure, loin du Seigneur, car nous cheminons par la foi, non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous préférons quitter la demeure de ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Aussi, notre ambition, que nous conservions notre demeure ou que nous la quittions, est-elle de lui plaire, car il nous faudra tous comparaître à découvert devant le tribunal du Christ, afin que chacun recueille le prix de ce qu'il aura fait durant la vie corporelle, soit en bien, soit en mal. Enfin, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 4, les versets 14 à 20, qui expliquent la parabole du semeur. Le semeur sème la parole. Voilà ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, Satan vient aussitôt et il enlève la parole qui a été semée en eux. De même, voilà ceux qui sont ensemencés dans des endroits pierreux, ceux-là, quand ils entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ils sont les hommes d'un moment. Dès que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils tombent. D'autres sont ensemencés dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais les soucis du monde, la séduction des richesses et autres convoitises s'introduisent et étouffent la parole qui reste sans fruit. Et voici, ceux qui ont été ensemencés dans la bonne terre, ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et portent du fruit, 30 pour 1, 60 pour 1, 100 pour 1.
Thank you.
Les versets que nous venons de lire, tirés d'Ézéchiel, font partie des nombreux oracles qui émaillent ce livre. Ézéchiel a vécu pendant une période troublée pour le peuple d'Israël. Après la conquête de leur terre et de leur capitale par Nabucodonosor, une partie de la population israélite, et plus particulièrement celle de Jérusalem, a été déportée vers Babylone. Ézéchiel, qui était prêtre avant d'être prophète, fait partie des nombreux exilés. L'avenir semble sombre, très sombre même pour lui et pour l'ensemble du peuple juif. L'oracle que nous venons de lire est une composante de celui qui annonce le jugement de Jérusalem, précédant celui qui annonce le châtiment des nations. Tout semble donc perdu pour Israël. Pourtant, dans cet horizon bouché, survient une parole qui, par la bouche du prophète, fait dire à Dieu « Je prends, j'arrache, je plante ». En d'autres termes, malgré un temps suspendu qui semble arrêté sur le malheur, Dieu continue à agir résolument pour le futur. Sinon, pourquoi planter ? Malgré la défaite, malgré l'exil, il affirme par la bouche du prophète que tout n'est pas fini pour Israël. Mieux que cela, à partir de ce qui semble destiné à une mort certaine, à une totale disparition, il annonce qu'il va faire renaître la vie. Non pas une vie chiche, une survie plus qu'une vie, mais au contraire une vie riche, abondante, productive, promesse d'un bel avenir. Fallait-il qu'Ézéchiel ait une confiance totale en celui au nom duquel il s'exprime, pour proférer ainsi un tel discours? Espérance, confiance sont les deux mots qui viennent à la bouche lorsqu'on lit de telles paroles. Cette confiance se double de la certitude absolue pour le prophète de la toute-puissance de Dieu. « Je suis celui qui dessèche l'arbre vert, élève l'arbre qui rampe et fait fleurir l'arbre sec. » Voilà des termes forts qui atteste bien de l'état d'esprit du prophète quand il s'exprime ainsi. Le Dieu qu'il nous présente est un Dieu tout-puissant, magnifique, qui se révèle dans le clinquant des ors et des trompettes, dans la fureur de l'éclair et du tonnerre. Un Dieu bien en accord avec celui en qui le peuple d'Israël a confié sa destinée et à qui il a demandé protection. Un Dieu non seulement capable d'être à la fois créateur et libérateur, mais également d'aller à l'encontre des lois mêmes de sa propre création. Si l'on ajoute à cela que l'arbre dont il est question est planté au sommet d'une haute montagne, cela magnifie encore la toute-puissance de ce Dieu. En effet, lorsque l'on sait que pour les anciens juifs, montagnes et mers étaient des lieux dangereux, où il était extrêmement périlleux de s'aventurer, on comprend pourquoi il n'est pas anodin qu'Ézéchiel signale que Dieu plantera cet arbre en haut d'une haute montagne d'Israël. Cela donne encore plus d'ampleur à son action. Ce simple fait attestant qu'aucun risque, aucun danger n'est de nature à entraver l'action du Seigneur. Dieu voit tout, sait tout, peut tout. Il est omnipotent, tout-puissant. Quelle magnifique confiance de la part du prophète. Ces versets ont peut-être inspiré Martin Luther lorsqu'il écrivait « Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterai quand même un pommier. » Si ce texte était réécrit de nos jours, affirmerait-il avec autant d'assurance cette forme tonitruante de la toute-puissance divine ? Je n'en suis pas certain. Pour beaucoup parmi les croyants, la vision actuelle qu'ils ont de Dieu est assez différente de celle qui nous est présentée ici, et nombreux sont ceux qui pensent que la toute-puissance de Dieu ne réside ni dans le clinquant des cymbales ou des trompettes, ni dans la fureur des éclairs ou du tonnerre, mais au contraire, dans la patience et la douceur. Actant les conséquences de nos nombreuses infidélités, il est celui qui, en toutes circonstances, contre vents et marées, ne renonce jamais à nous faire sortir des impasses où nos actions nous ont trop souvent conduites. Malgré nous, aidé par ses fidèles qu'il souhaite associer à son projet, mais pour nous tous, qui que nous soyons, il poursuit inlassablement l'œuvre de sa création. Il ne renonce pas à son projet de vie pour le monde et pour nous, et inlassablement, il retisse les mailles du filet que nous avons rompu. Oui, pour beaucoup, notre vision de Dieu n'est plus celle qu'en avaient les hommes du temps d'Ézéchiel. À bien y réfléchir, il en a toujours été ainsi au cours des siècles. Et si le Dieu que nous prions aujourd'hui est bien le même que celui que priaient nos pères, la vision que nous en avons, elle, a changé. Mais finalement, que la toute-puissance de Dieu réside dans la force ou dans la patience et la durée, cela importe-t-il vraiment? Je n'en suis pas certain. Il me semble que la leçon principale que nous pouvons tirer de ce texte se trouve ailleurs. Ce texte nous invite à développer deux qualités que nous devons toujours garder, quoi qu'il arrive. Elles ont pour nom confiance et espérance. Je plante, je sème, que cela soit à la hussarde ou dans la douceur, résulte de la même vision positive du monde et vise au même objectif, celui de croire que les forces du bien sont supérieures à celles du mal et que finalement, les forces de vie prendront toujours un jour ou l'autre le pas sur celles du mal, quelle que soit la longueur du tunnel dans lequel nous devons avancer. C'est cela que vient nous dire ce texte. Nous pouvons encore en faire notre miel aujourd'hui. C'est là que se situe la bonne nouvelle. La fidélité de Dieu demeure, et même au pire moment de notre histoire, elle continue à agir patiemment sur la terre. Lorsque Jésus racontait la parabole du semeur pour l'édification de son entourage, ne disait-il pas finalement la même chose? Le semeur sème largement, car il sait qu'un jour ou l'autre, des graines germeront, qui porteront du fruit en abondance et le récompenseront de son labeur. N'en est-il pas de même lorsque Paul nous parle de la confiance que nous devons avoir en Dieu et qu'il nous invite à fortifier notre foi? Cette foi dont le philosophe Baruch Spinoza disait qu'au-delà de tous les dogmes de nos églises, elle se manifeste en respectant la loi d'amour qui nous a été donnée par notre Seigneur Jésus et qui à elle seule résume la Bible et les prophètes. Là est la vraie fidélité à la loi de Dieu. Cela est difficile, nous en sommes le plus souvent incapables, mais une voix est présente en nous qui nous dit inlassablement « Non, cela n'est pas impossible. Ose, ose seulement, mais ose !» Dans les temps troublés que nous traversons, où à juste titre, les raisons d'inquiétude sont nombreuses, voyons dans la méditation de ces textes la petite lumière qui nous pousse à ne pas désespérer, car elle nous dit qu'un avenir est possible et que chacun doit et peut apporter sa petite pierre à l'édifice commun pour qu'il en soit ainsi. Non, nous ne sommes pas condamnés à l'impuissance. Jésus a pu, dit-on, multiplier le pain et les poissons, mais pour cela il a fallu que quelqu'un apporte un peu de pain et quelques poissons. Là est notre rôle, là est notre fidélité, là est le sens de nos vies. Alors oui, allons, osons, plantons, la voix du Christ se mêle à celle des apôtres et des prophètes et nous y invite, car c'est ainsi et ainsi seulement que nous connaîtrons la plénitude pour nos vies. Amen.
Forever.
Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de croire que l'être humain ne soit qu'un fétu de paille ballotté par le courant de la vie sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager la vie de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre, que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je refuse de faire mienne la prédiction cynique que les peuples descendront l'un après l'autre dans le tourbillon du militarisme vers l'enfer de la destruction. Je crois que l'amour sans condition et la vérité auront effectivement le dernier mot. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. J'ose croire qu'un jour, les habitants de la Terre pourront recevoir 3 repas pour la vie de leur corps, l'éducation et la culture pour la santé de leur esprit, l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et personne n'aura plus de raison d'avoir peur. Je crois fermement que nous l'emporterons. Amen.
Je vous invite à vous unir dans la prière des uns pour les autres. Seigneur notre Dieu, au moment où à nos portes se joue la paix du monde, nous te prions pour que tu inspires les chefs des peuples, afin qu'ils trouvent les chemins qui conduisent à la paix, non pas celle des abandons et des lâchetés, car nous savons combien elle est trompeuse, mais celle qui laissera chacun des peuples debout, conscient des efforts qu'ils ont dû accomplir, mais conscient également du respect dont ils sont entourés. Au moment où la faim assaille les plus démunis d'entre nous, nous te prions pour que tu suscites parmi nous des femmes et des hommes capables de les secourir et d'être ainsi des témoins de ton amour. Prions pour que chacun dans l'Église, par sa vie, ses paroles et ses actes, soit à la fois témoin de l'Évangile qui nous libère et acteur, participant ici et maintenant à l'élaboration du royaume de justice et de paix que tu nous invites à construire. Toutes nos prières, nous voulons maintenant les réunir dans celles que notre Seigneur Jésus-Christ nous a apprises. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Allez par les chemins proclamer la bonne nouvelle que vous avez entendue. Le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen.
Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir du site internet de cette église, nimes-église-protestante-unie.fr, ou bien en envoyant un chèque à Église protestante unie de Nîmes, Maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par Bernard Cavalier, prédicateur de l'Église protestante unie de France, avec la participation de Mireille Soulier. Restez à notre écoute pour la suite de nos émissions.